Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, je suis très heureux d'accueillir ces deux journées de rencontres consacrées à Claude Simon et à son écriture, qui sont organisées avec la complicité et la direction scientifique de Dominique Viard. Ces journées constituent en fait à la fois le commencement et l'aboutissement de ce que j'appellerais l'automne Claude Simon de la BPI, marqué bien sûr par l'exposition au sein de la bibliothèque et également par une lecture qui a été donnée ici même par Denis Podalydès de La Route des Flandres, il y a quelques semaines. Le commencement de cette aventure, puisque l'idée initiale était celle d'un colloque qui a été proposé par Dominique Viard et par l'Association des lecteurs de Claude Simon, proposition qui a été faite à notre directeur Patrick Bazin il y a un peu plus d'un an et demi, je crois, dans la perspective de la commémoration du centenaire de la naissance de Claude Simon. Et cette idée a cheminé, elle s'est développée jusqu'à devenir la réalisation d'un événement de bien plus grande ampleur, c'est-à-dire l'exposition que je vous invite à découvrir au niveau 2 de la BPI, Claude Simon, l'inépuisable chaos du monde, et qui a commencé déjà depuis le 2 octobre et qui va se poursuivre jusqu'en janvier 2014. Mais je dirais aussi que ces rencontres sont pour nous un aboutissement, d'une part parce qu'elles rendent compte d'une manière complémentaire de l'exposition de l'écriture de Claude Simon en train de se faire, de son travail, de ses inspirations, de ses points d'appui sensibles dans le réel et dans l'art, avec des éclairages à multiples facettes comme celui d'Yves Perret que nous allons entendre tout à l'heure. Mais c'est aussi pour nous ces rencontres sont aussi pour nous un aboutissement qui, heureusement, ne peut pas aboutir d'une certaine manière, dans la mesure où elle se projette dans la littérature d'aujourd'hui, dans l'influence de Claude Simon sur des écrivains contemporains, et non des moindres, qui vont pouvoir s'exprimer sur tout ce que la lecture des romans de Claude Simon leur apporte dans leur propre travail de création. Et je dirais qu'en tant que bibliothécaire, mais peut-être encore plus en tant que lecteur lambda de Claude Simon, j'avoue que je suis particulièrement heureux de ces connexions, de cette filiation spirituelle et sensorielle entre Claude Simon et les créateurs d'aujourd'hui que nous allons pouvoir découvrir grâce à vous tout au long de ces deux journées. Je pense à Jean Rouault, à Tanguy Viel, à Arnaud Bertina, Mélisse de Kerangal, Lydie Salvert, je pourrais les citer tous, mais je souhaite les remercier particulièrement de leur présence à tous tout au long de ces deux journées. Et cette présence témoigne d'une continuité littéraire particulièrement vivante et active, qui donne un sens supplémentaire à ce qui fait notre quotidien dans les bibliothèques, à ce qui est une de nos missions premières, à savoir la mise en relation entre œuvres et lecteurs, entre auteurs et lecteurs, pour que naissent à leur tour d'autres auteurs et d'autres œuvres. Mais je ne voudrais pas retarder davantage le commencement de ces journées, et sans plus attendre, je voudrais bien sûr vous souhaiter deux excellentes journées pour de plonger dans l'univers de Claude Simon, dans les mondes inépuisables de Claude Simon et son écriture. Et puis, tout de suite, je laisse la parole à Dominique Viard, à Alain Fleischer et à Alastair Duncan, qui ont été nos alliés extrêmement précieux dans l'organisation de cette manifestation et en particulier, évidemment, pour l'exposition. Merci à tous.
Oui, c'est moi qui vous remercie, Emmanuel Aziza, et avec vous, tous les gens qui ont contribué à ce travail au sein de la BPI, Jérôme Bessière, Emmanuel Payen, et au sein des équipes techniques du Centre Pompidou qui ont été d'une efficacité remarquable pour mettre en œuvre tout ce que nous avions essayé de présenter. Alors, je laisserai à Alain Fleischer tout à l'heure le soin de présenter l'exposition elle-même, mais je veux quand même dire un mot d'abord, et évidemment parce qu'il ne le fera certainement pas lui-même, dire tout ce que nous lui devons et combien le dispositif que nous avons adopté sur sa suggestion pour présenter cette œuvre me paraît particulièrement juste, parce qu'il met, comme Simon lui-même le répète volontiers, et comme j'imagine non moins volontiers qu'il l'aurait lui-même souhaité, parce qu'il met l'écriture au centre de l'exposition, cette écriture qui est au centre de l'œuvre. Il y a là sans doute une évidence que seul un artiste comme Alain Fleischer, qui est aussi justement un écrivain, pouvait mettre en scène. Et c'est ce geste qui donne, me semble-t-il, du moins vous en jugerez par vous-même, ou peut-être en avez-vous déjà une idée, qui donne à l'exposition un mouvement particulièrement naturel. Et parce qu'Alain Fleischer est aussi cinéaste, plasticien, il est, je crois, parvenu à rendre compte en même temps de l'ampleur et de la profondeur de l'œuvre, de sa temporalité. Et de tout cela, je crois qu'il était important de le remercier. Je suis content de le faire ici, publiquement, en sa présence et en votre présence. Il fallait le faire, en effet, parce que l'œuvre de Claude Simon est une œuvre à multiples dimensions. Elle embrasse les espaces, depuis les plus vastes vues d'avion, comme dans le texte récent qui présente la Finlande dans Nord, jusqu'aux plus minuscules espaces, comme ces fameux brins d'herbe sur les bas-côtés de la route des Flandres, qui sont éprouvés avec une telle prégnance dans l'expérience de la guerre, et que l'écrivain retrouve ensuite dans les tableaux de Dubuffet, avec lequel il entretient autour de ces brins d'herbe quasiment et des cailloux, une correspondance désormais publiée. C'est une œuvre qui est aussi sensible, vous le savez bien, à l'incohérent, nonchalant, impersonnel et destructeur travail du temps, comme il le dit à la dernière page de La Route des Flandres, autant qu'à l'impalpable et protecteur brouillard de la mémoire, comme il le dit cette fois à la dernière page du tramway. Dimension donc de l'espace et du temps auquel il faudrait ajouter très certainement une cinquième, celle de la vision, qui convoque le théâtre dans les rituels sociaux, les cataclysmes géomorphiques dans la déroute des armées et plus généralement l'histoire dans le présent et dans le présent même de l'écriture. Et pour ma part, s'il y a une leçon que je retiens du travail que nous avons accompli autour de Claude Simon et de son œuvre durant ces deux années de gestation de ses multiples projets, c'est bien finalement que l'œuvre déborde toujours ce qu'on croit en savoir. Attentive à l'inépuisable chaos du monde, comme nous avons voulu la mettre en évidence par le titre même donné à l'exposition, elle s'est rendue elle-même, me semble-t-il, inépuisable par son inlassable retour sur les événements, son inlassable requête des images, son inlassable creuset des sensations. C'est une œuvre du regard, on le disait déjà dans les premières années de publication de ses romans, mais c'est une œuvre aussi de la captation, une écriture dans le fil de laquelle ressurgissent sans cesse les choses vues, oubliées, mais jamais perdues, et que le verbe fait ressurgir. Et c'est d'ailleurs peut-être là ce qu'on méconnaît trop souvent, que cette œuvre est d'abord et avant tout une œuvre de la sensation, une syntaxe du sensible, comme le dit très joliment David Zemmour, qui nous a aidés dans ce travail d'exposition. Une œuvre donc qui parle au sens, qui les suscite comme jamais, et qui, en même temps, ne cherche jamais à subsumer les perceptions dans quelques concepts qui viendraient les circonscrire, qui refusent d'enfermer la sensation dans une idée ou dans une intellection. Et c'est sans doute d'ailleurs pourquoi elle déconcerte souvent ses lecteurs qui sont plus habitués à ce qu'on leur raconte une histoire ou à ce qu'on leur explique les choses, plutôt qu'à se trouver directement immergés, sans préalable, sans appel, au cœur même de cette expérience sensible. Et non seulement d'ailleurs au cœur de l'expérience sensible, mais encore au cœur du langage, je veux dire au cœur même de la matérialité du langage, dans ce lieu où proférer un mot, c'est immédiatement le voir proliférer, induire des directions nouvelles, faire se lever d'autres images, d'autres réminiscences, des souvenirs, des tableaux, des choses vues, des choses sues, des détails aperçus, des graffitis, des odeurs, comme celles par exemple de moisies, de poussière ou de putréfaction qui affectent tant de lieux simoniens, qui développent au-delà du premier réflexe de retrait, de dégoût que peut-être on peut éprouver, des richesses olfactives qui viennent submerger la narration, ou encore des contacts, comme celui du crêpe, du voile de deuil, qui hante presque obsessionnellement depuis Histoire et jusqu'à l'Acacia et au-delà, une mémoire d'enfance endeuillée, mais contacts aussi de la chair des femmes, de leur corps enchevêtré dans l'amour, de leur toison qui fait éprouver à nouveau, comme par une sorte de contamination sensorielle, le traumatisme d'une guerre violente. Ceux d'entre vous qui ont entendu ici même la lecture que Denis Podalydès a donnée de La Route des Flandres ont, je crois, pu prendre la mesure de cette mémoire du corps qui met l'esprit en déroute et qui vient, dans la même phrase, dire à la fois le plaisir et la commotion, le traumatisme et l'oubli du traumatisme, à la fois la menace de la mort et la puissance érotique du désir. Car il y a, je crois, ce mouvement tout à fait irrépressible qui ne cesse d'ouvrir la voie aux analogies, qui voit dans le monde à la fois ce qu'il donne à voir, mais aussi ce qu'il suggère, avec une attention jamais démentie, soucieuse des marges du monde, de ses détails inaperçus, soucieuse de la vigueur des espaces et des corps, de la puissance de l'art, on le voit à propos des tableaux de Novelli dans le Jardin des Plantes, soucieuse jusqu'au tracé calligraphique de ses écritures qui sont décrites et reprises dans l'herbe, celle de la vieille tante agonisante, dans Histoire sur les cartes postales, dans les géorgiques, les registres de LSM, soucieuse de la vanité des choses, du dérisoire des vies, je pense à ces pages si fortes sur les objets que l'Exode sème au bord des routes, qu'on trouve dans la route des Flandres ou dans l'Acacia. Une écriture qui peut être aussi amusée, car elle n'est pas seulement une écriture de la noirceur ou de l'ombre, une écriture amusée des rituels sociaux dans le tramway, moqueuse des fastes protocolaires dans l'invitation. Une écriture donc amoureuse du monde, de ces lieux qui sont tous longuement décrits, de ces architectures, celle de Chicago par exemple, des œuvres d'art que le monde recèle et qu'on retrouve dans Orion aveugle, avec une absence totale de hiérarchie entre les productions artistiques, ou dans Femmes, ce très beau livre réalisé avec Juan Miró. Rétive à l'énonciation lapidaire, la phrase de Simon se refuse à enfermer une telle prolifération du réel, une telle richesse dans un seul mot. Et c'est pourquoi elle convoque à la fois tous les sens d'un mot et inversement, pourquoi elle fait varier les termes pour un même objet, comme si elle voulait mêler et réunir polysémie et synonymie et de l'une féconder l'autre. Car épris du monde, je le disais à l'instant, Simon est encore plus épris peut-être du langage, des mots justement, dont il éprouve le goût, c'est-à-dire le son, la mesure, les connotations. Il y a une dimension profondément poétique dans cette œuvre qui a tendance à déployer dans le mouvement de la phrase, sur la ligne syntaxique, ce qui relève de la substitution, ce qui relève du paradigme, aurait dit Jacobson, c'est-à-dire finalement de la poésie. Les manuscrits le montrent, avec cette partie gauche, libérée de plus en plus par l'écriture qui, elle, se tient à droite et se poursuit comme en entonnoir, partie gauche qui libère donc des marges de plus en plus grandes pour des dessins, mais aussi pour des mots en réserve qui sont jetés sur le blanc du papier au fur et à mesure qu'à droite, les paragraphes s'enchaînent. Des mots jetés comme pour ne pas oublier, simplement parce qu'ils sont venus à l'esprit au moment où l'écrivain écrivait, de leur faire place ultérieurement peut-être dans l'avenir du texte. C'est aussi ce que montrent les photographies de Claude Simon, que vous pouvez voir dans la seconde exposition Claude Simon, qui se tient ici même au musée cette fois, grâce à la donation de Réa Simon, qui nous a beaucoup soutenus et accompagnés dans cette entreprise. Des photographies qui nomment, par exemple, page d'écriture, un mur de briques aux rangées obliques, ou encore jambes, un tronc d'arbre qui se divise en deux, ou encore Sainte-Famille, un couple de gitans autour d'un nouveau-né. Analogie des textes encore, qui exploitent des superpositions en multiples digressions, vous le savez, parenthèses, ajouts, rêveries, emportements, et qui peuvent aussi parfois faire la matière de caricature ironique, car il y a non seulement chez Simon cette leçon de ténèbres que j'évoquais tout à l'heure, il y a ces dimensions ironiques et caustiques, mais il y a aussi de temps en temps quelque chose qui relève de la critique, comme ces galeries de portraits hollywoodiens qui sont rassemblées dans l'invitation à la faveur de ce voyage de prix Nobel dans les républiques de l'ancienne Union soviétique. Des développements caustiques, comme on en trouve encore dans la route des Flandres, lorsque les foules haranguées par un populisme fasciste sont, dit l'auteur, pourvues d'une sorte de don, d'infaillible instinct qui leur fait engendrer et véhiculer et distinguer en leur sein et pousser en avant par une espèce d'autosélection ou expulsion ou plutôt défécation l'éternel imbécile qui brandira la pancarte et qu'elles suivront dans une sorte d'extase et de fascination où les plonge, comme les enfants, la vue de leurs excréments. Des pages comme ça, qui sont éminemment critiques, sinon politiques, sont nombreuses dans l'œuvre. On pourrait évoquer la phraséologie révolutionnaire qui est comparée dans le Palace à un fœtus à grosse tête, dit-il, langé dans du papier imprimé, qu'il compare un peu plus loin à une puante momie enveloppée et étranglée par le cordon ombilical de kilomètres de phrases enthousiastes tapées sur ruban à machine par l'enthousiaste armée des correspondants étrangers de la presse libérale. Et il ajoute « victime de la maladie pré-infantile de la Révolution ». Ou encore, mais je ne veux pas multiplier les citations, dans l'Acacia, cette page qui compare l'histoire à une ogresse qui dévore, assimile et rejette finalement les hommes par son anus ridé de vieille ogresse. Il y a là une puissance critique de l'œuvre sur laquelle il m'est arrivé d'insister parce qu'il me semble qu'elle est longtemps demeurée inaperçue à cause même des réserves que Simon a pu formuler contre la littérature engagée, c'est-à-dire contre une écriture qui se soumet à des idées. Son travail, lui, est de passer plutôt par d'autres voies pour nous faire percevoir ce qui est de l'ordre de l'inacceptable, peut-être. Mais je ne veux pas reparler de ces choses-là maintenant, car au-delà de tout ça, il y a, me semble-t-il, quelque chose qui rend cette œuvre particulièrement attachante, émouvante même, c'est qu'elle ne renonce à rien. On peut, à la lire et à la relire, mesurer le puissant désir qui toujours l'anime, ce désir de tout voir, de tout retenir, de tout tenir ensemble. L'art et l'archive, comme dans Orion aveugle, la bataille de Pharsale ou les Géorgiques, les brisures et les faillites de l'histoire, depuis la route des Flandres ou le Palace jusqu'à l'Acacia, ou Géorgique encore, les livres et les œuvres, mais aussi, et au moment même où la mort menace, l'harmonie des lumières et des paysages. Et je voudrais qu'on soit attentif, à notre tour peut-être, à cette attention extrême qu'elle porte vers le monde et qui est partout à l'œuvre dans l'œuvre. On pourrait brièvement, pour cela, manifester l'évident désir qu'il apporte à partir de deux, trois mots, quatre peut-être, qui sont dès l'origine inscrits dans les livres de Claude Simon. Je prends le tout début de La corde raide, l'un de ces livres qu'il a renoncé plus tard, mais où déjà tant de choses sont présentes. Je n'en lis que le premier paragraphe ici. Autrefois, et peut-être souvenez-vous que nous sommes aussi en train de célébrer le centenaire de Un amour de Swann de Proust. Autrefois, je restais tard au lit et j'étais bien. Je fumais des cigarettes, jouissant de mon corps étendu, et je regardais par-delà la fenêtre les branches d'arbres. Le soleil d'hiver glissait sur le toit de tuiles voisins et l'ombre s'allongeait sur le mur. Au printemps et l'été, à Perpignan, l'acacia multiple se reflétait dans la glace, des fragments verts, le jeu de toutes ces petites feuilles ovales miroitant. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce mot « miroitant » sur lequel s'achève le paragraphe, ce détail infime d'un jeu de lumière entre moire et miroir qui revient si souvent dans l'œuvre de Simon. À la fin du même livre, je prends un second mot, c'est « palpiter » cette fois, que vous allez entendre dans ce passage qui laisse venir au narrateur, à l'écrivain peut-être, toutes les sensations à la fois. Immobile, dans la nuit, à regarder la hasardeuse disposition des fenêtres allumées, rectangles peints en jaune orangé, écoutant le bruit d'un pas sur les boulevards, écoutant une femme qui rit quelque part, une musique, écoutant l'arbre palpiter et s'ouvrir, pousser ses ramures à travers moi, m'emplissant les mains de ses feuilles, m'emplissant de sa voix chuchoteuse, les voix de ceux qui n'ont pas encore vécu, celles de ceux qui ont fini de vivre, les mêmes voix, les mêmes présences, toutes celles qui m'ont tellement donné, celles qui m'ont donné une vie, celles qui m'ont donné la bouleversante tendresse de leur chair, celles qui m'ont aimé, celles qui m'ont trop aimé. Il me semble qu'il y a, dans ces deux mots, auxquels s'ajouteraient quelques autres, comme impalpables, frémissants, scintillants, multiples, qui reviennent de livre en livre, quelque chose qui dit justement l'acuité de cette attention. On pourrait en suivre le cours tout au long de l'œuvre, au début de l'herbe, par exemple. Mais ce n'est rien d'autre qu'une vieille femme qui meurt, dit Louise, rien d'autre. Et je saute un petit passage. Et autour d'elle, cette molle vibration de chaleur s'apaisant par degrés, les contours des choses ondulant à la façon d'algues, toutes les feuilles des trembles frémissant sans trêve, oscillant, palpitant. Le train de 7 heures débouchant derrière la colline, autre coupure, les phrases de Simon sont trop longues pour qu'on puisse lire en entier dans ces circonstances, mais la fin de du passage, c'est ceci. « Tandis que le frémissement des feuilles semblait multiplier le silence, papillotant, pointillant la masse des arbres, la lumière se fractionnant en une infinité de particules miroitantes. » Au début d'histoire, cette fois, je pouvais la voir, ou du moins ces derniers rameaux éclairés par la lampe avec leurs feuilles semblables à des plumes palpitant faiblement sur fond de ténèbres. Et un peu plus loin, ces invisibles frémissements, ces invisibles soupirs, cette invisible palpitation qui peuplait l'obscurité. Je ne peux parcourir maintenant tous les livres, et je vais directement au dernier, Archipel, dont la première page voit d'avion le tissu de prés, de bois, de champs miroitants dans le contre-jour, comme des glaces de métal à l'éclat terne enchâssées dans l'herbe. Et plus loin, les champs, les bois, les petits rectangles scintillants des toits. Ou dans Nord, publié dans le même volume, quelque part, toujours scintillant, mille paillettes s'allumant, s'éteignant entre les troncs d'un lac. J'arrête là de telles notations, et ces mots surtout, fourmillent dans l'œuvre. Merleau-Ponty, je crois, ne s'est pas intéressé par hasard à cette œuvre, lui qui est si soucieux de la phénoménologie de la perception, du visible et de l'invisible. Or, la perception est ce qui déborde toujours la langue, ce qui lui échappe sans fin, et que la phrase, les mots qu'elle multiplie, tente de retenir. Elles disent le monde qui palpite et miroite sous le regard, le monde impalpable et pourtant si présent, sa vie fragile. Et c'est bien de fragilité qu'il s'agit ici. La phrase, toujours, en pointe la précarité. Et je reprends là où je l'ai laissé la toute dernière citation que j'ai faite, celle de Nord. « Quelque part, toujours scintillant, mille paillettes s'allumant, s'éteignant entre les troncs d'un lac. Mais ce n'était pas encore vraiment le Nord, seulement quelque chose qui, cette mélancolie, s'élevant parmi les fleurs sauvages, la folle et pathétique végétation des étés éphémères, m'attendant à la voir peu à peu se défaire, s'en aller en morceaux, s'écrouler la vaste maison comme rangée par d'invisibles termites, une secrète mélancolie. » Vous avez, je pense, reconnu ce monde qui s'en va en morceaux, en eau, en rien, qui obsède déjà la route des Flandres, et puis surtout ce mot lâché, mélancolie. Celui déjà qui était livré dans le Jardin des Plantes par l'écrivain, à bout de course, à bout de souffle, peut-être en dernier recours, face au harcèlement du journaliste qui lui posait des questions sur son expérience de la guerre, et à la fin il dit « mélancolie ». Vous connaissez sûrement ce passage. Je n'ai pas le temps de le relire maintenant, et si vous ne le connaissez pas, je crois qu'il est urgent d'aller le découvrir. Ce passage qui établit aussi une différence entre la complaisance romantique ou pré-raphaélite à l'élégance du spleen que peut nommer parfois la mélancolie, et au contraire, la rage qui étreint le condamné à mort au moment où il sait devoir non pas disparaître au monde, mais cesser bientôt de l'admirer. La rage et le scandale de ne plus saisir sa beauté. Ce condamné à mort qui vient à Simon par le truchement de Dostoïevski, c'est aussi bien le brigadier, Georges, Simon, sous le feu ennemi, l'écrivain malade qui perd ses poumons, c'est finalement chacun de nous, promis à la mort et à la cécité ultime. Ce monde qui palpite et que l'œuvre fait miroiter dans son texte, c'est notre condition d'homme qui s'y mire. Non pour déplorer sa finitude, il y a à cet égard chez Simon nulle plainte, mais pour se désoler de ne plus accorder son regard au monde, ne plus pouvoir lui dédier son œil, son oreille, son nez, son corps sensible, et rester à jamais muet devant ses multiples et infimes sollicitations. Tel est, je crois, pour Simon, le vertige de la page blanche, non pas celle sur laquelle il faut se lancer pour écrire, mais la menace de celle, à la fin, où plus rien ne s'écrit. Finalement, cette œuvre touche au plus profond de notre condition humaine, de notre être au monde, tout animé qu'elle est par le désir de tout voir et la mélancolie de tout perdre. Merci. Et je passe la parole, le relais, à Alastair, qui a œuvré pour que les deux tomes de la Pléiade existent et à qui nous devons d'avoir non seulement rassemblé l'œuvre là, mais aussi accompagné cette œuvre de toutes sortes de documents dans lesquels Simon lui-même puise abondamment et qui nous sont précieusement restitués par son travail.
Merci. On m'a demandé de parler de la cohérence de l'œuvre de Simon. Cohérence, drôle de mot, à appliquer à une œuvre qui ne cesse de puiser dans l'inépuisable chaos du monde. Dans L'Herbe, roman de 1958, Louise se plaint. C'est tout de même assez comique et même complètement absurde d'être obligé de s'exprimer d'une façon cohérente quand ce que l'on éprouve est incohérent. Ainsi, moi, par exemple. Ce cri, cette protestation, retentit à travers toute l'œuvre. Dans la suspicion à l'égard de tout récit, manuel scolaire, livre d'histoire, qui impose cohérence au désordre. Le désordre de Louise est subjectif. D'une part, la confusion des sens, l'absence de ce filtrage intellectuel par lequel nous organisons perception et sensation. D'autre part, le trop-plein des souvenirs s'accumulant, se bousculant les uns les autres. L'expérience de guerre de la débâcle de 40 fait pencher sur d'autres abîmes de désordre, dans la route des Flandres notamment. Je cite, « C'était comme si, non pas une armée, mais le monde lui-même, tout entier, et non pas seulement dans sa réalité physique, mais encore dans la représentation que peut s'en faire l'esprit, était en train de se dépiauter, se désagréger, s'en aller en morceaux, en eau, en rien. » Sur la route des Flandres se dissout toute certitude, tout schéma d'ordre. La foi dans l'histoire, que ce soit la providence des pères dominicains, le progrès des Lumières, la puissance humanisante de la lecture des bons auteurs. L'œuvre de Claude Simon est celle de la désillusion, rachetée par un attachement féroce à la somptueuse magnificence du monde. Cette œuvre ne pouvait se satisfaire des formes convenues du roman. Dans ses écrits sur le roman, Simon dénonce à répétition l'ordre factice de la chronologie, de l'intrigue, de la suite prétendue logique d'événements qui sont en fait des coïncidences en série. Dans ses romans, il cherche un autre ordre, une autre logique, et oui, une autre cohérence. Les solutions sont variables. À chaque fois, une nouvelle tentative pour établir un ordre précaire, comme l'esquisse, à la manière de David, décrite dans le prologue des Géorgiques, d'apparence inachevée et pourtant considérée par son auteur comme parfaitement finie. Simon a mis du temps pour trouver des formes à sa convenance. Il a renié ses 4 premiers livres. Les œuvres de sa maturité partagent certaines caractéristiques. Dans le détail, et c'est la difficulté à laquelle le nouveau lecteur de Claude Simon est d'emblée confronté, c'est, dans la plupart des romans, la phrase longue, très longue, qui ne se conforme pas au modèle classique du sujet, verbe et complément. Ce sont des phrases qui avancent en tâtonnant, cherchant leur voie. Elles ont, d'une part, une qualité orale. C'est comme si quelqu'un vous parle. La voix se corrige, s'interrompt, élabore sa pensée, développe des comparaisons, avant de revenir, enfin, enrichi et approximativement à son point de départ. Ces phrases, ces périodes, ont également une qualité cinématique. Les plans successifs changent de point de vue et de perspective. C'est tantôt un personnage qui regarde et réfléchit, tantôt un autre. Des gros plans alternent avec des moyens plans et des plans à distance. Des cailloux sur la route, des mouches sur la tunique d'un officier tué et la terre vue d'avion. Les prix notés dans un carnet de compte et la lente et pendulaire oscillation sur son axe du monde emporté dans les espaces. Simon est à la fois visuel et visionnaire. Il faut se faire aux phrases de Simon. Il faut se laisser porter. Il faut lui faire confiance. Il sait où il va. La logique, la cohérence de chaque roman naît avec le roman même. À son bureau, Simon est assailli par ses souvenirs, sollicité par les multiples associations des mots. Il n'a, dit-il, qu'un vague, très vague projet. Simon écrivait à la main, en accumulant des fragments, 2, 5, 10 pages par jour, parfois des titres, des sujets différents. Et puis d'autres pages aussi, d'autres pages manuscrites, sur lesquelles il note de successifs brouillons de plans de montage. Comment faire un tout, une unité, il utilise ce mot, de ces fragments divers. Le résultat n'est jamais une suite d'événements, des personnages fixes, des explications psychologiques. Et pourtant, partant de descriptions, Simon utilise histoire à thème commun, scènes et situations parallèles, personnages similaires et contrastés. Il multiplie les échos et les correspondances. Parfois, des scènes, des situations sont juxtaposées. Quelques romans se composent en pièces détachées, le jardin des plantes, par exemple, ou le tramway. Parfois, le roman continue, glisse de l'une à l'autre de ces scènes, de ces épisodes, de ces personnages, au point même de les confondre. L'ambition démesurée de Simon, que tout le roman soit simultanément présent, chaque partie en filigrane dans les autres. Tantôt, il travaille avec deux séries. Dans le tramway, le garçon qui vit la maladie et la mort de sa mère, et d'autre part, le vieillard malade qui passe très près de la mort, mais qui revient à la vie. Dans l'Acacia, sur une échelle beaucoup plus grande, un schéma similaire. Le père qui s'en va en guerre, qui tombe et meurt. Le fils, également envoyé au front, tombe, perd conscience, mais revient à la vie et se met à écrire. Plus souvent, trois histoires se confondent. Triptyque, par son titre même. La route des Flandres, trois histoires de guerre et de mari trompé. De Reichach, l'ancêtre général, les paysans. Les Géorgiques, deux thèmes, guerre et révolution. Trois exemples, le général révolutionnaire, le cavalier de 39-40, le volontaire de la guerre d'Espagne, qui se confondent par le seul pronom personnel, il. Et puis, et je termine là-dessus, rétrospectivement, la cohérence de l'œuvre entière. C'est une œuvre de plus en plus centrée sur la biographie et des histoires de famille. Pour le plaisir du lecteur, Simon revient sur les mêmes incidents et épisodes, les mêmes personnages, les mêmes motifs, l'acacia frémissant et palpitant. Mais tout est toujours amplifié et universalisé. C'est enfin la création d'un monde parallèle, mythique, fragmentaire et cohérent. Merci.
Bien, maintenant, nous allons entendre Alain Fleischer, qui a, comme je le disais tout à l'heure en préambule à mon petit propos, beaucoup œuvré pour cette exposition et qui en a trouvé le fil directeur, je dirais, à la fois juste et nécessaire.
Merci, Dominique, de ce que tu as bien voulu dire de ma participation. Je vais essayer, là, d'une façon très prosaïque, très concrète, très pragmatique, de faire part de mes réflexions et des réponses que j'ai trouvées à cette question, comment exposer un écrivain, puisque tel était le but de cette opération. Exposer un écrivain sous-entend en quelque sorte un passage du lisible au visible, car un écrivain s'expose à la lecture et non pas à la contemplation. Il s'agit donc d'un retour à l'image ou d'un retour aux images, mais non pas celle que la littérature inspire, suggère ou décrit à la façon de celle d'un film de cinéma adapté d'un roman. Si l'écrivain est exposé aux images, je me souviens que Pierre Klosowski disait « Je suis sous la dictée de l'image », c'est par les mots qu'il les expose, après que ces images aient à l'origine été déterminées par les mots. Il n'y a d'image que de ce qui est nommé. Dans la situation d'avoir à exposer un écrivain, la véritable question est de savoir si l'on expose une personne ou une œuvre, ou encore les deux à la fois. Une telle question ne se pose pas quand il s'agit d'exposer un peintre. Dans ce cas, il n'y a aucun doute. On sait bien que l'exposition d'un peintre consiste à exposer ses tableaux, des œuvres de peinture. Et le projet d'exposer un peintre ne sous-entend jamais qu'on va raconter l'histoire de sa vie, montrer les lieux où il a vécu, les ateliers où il a travaillé, ses instruments et sa palette de couleurs, évoquer ses relations avec ses modèles, l'origine de son inspiration, etc. Le mot même « exposition » signifie la présentation publique d'objets qui peuvent être des œuvres d'art, bien sûr, mais aussi bien des pièces de mobilier, de la porcelaine, des automobiles, des maquettes d'architecture, des marionnettes de théâtre, des vêtements, des bijoux, des armes et des armures, des instruments scientifiques, etc. Le salon des arts ménagers, à l'époque de mon enfance, était une exposition de tous les matériels et équipements domestiques. On peut aussi exposer des documents, manuscrits, autographes, imprimés, journaux, affiches, catalogues, publications diverses, photographies. Alors une telle exposition peut concerner toutes sortes de sujets ou de personnalités, hommes politiques, grands militaires, histoire de la Première Guerre mondiale, souvenirs de voyage d'un célèbre explorateur, etc. C'est sans doute ce genre d'exposition qui peut concerner l'écrivain, avec toutefois cette ambiguïté qu'un écrivain est un créateur, on pourrait dire un artiste, même si la distinction académique existe entre arts et lettres, mais dont les œuvres, un artiste dont les œuvres n'ont pas pour mode de diffusion l'exposition. Certes, on peut exposer une édition rare ou un ouvrage pour bibliophile avec reliures précieuses et illustrations originales, mais l'œuvre de l'écrivain reste fondamentalement étrangère à tout cela. Elle est parfaitement acceptable dans une édition de poche à bon marché et peut-être même cette forme est-elle préférable, ne proposant que l'essentiel et ne réduisant pas l'œuvre à un objet. Exposer un écrivain, tout comme exposer un compositeur, un cinéaste, un philosophe, un anthropologue ou un grand savant, ne peut donc consister à montrer son œuvre à la façon d'une exposition de peintre, de dessinateur, de sculpteur, de céramiste, de graveur ou de photographe. L'œuvre d'un écrivain est destinée à être lue ou à la rigueur écoutée, mais il faut alors qu'elle soit lue par un autre ou qu'elle ait été préalablement lue et enregistrée. L'œuvre d'un écrivain ne se regarde pas. La parole n'a pas été transformée en image, elle a été codée selon un système de signes graphiques, ce qu'on appelle l'écriture, qu'il s'agit de déchiffrer. Écriture est d'ailleurs un terme ambigu pour dire le travail de l'écrivain. Il vaudrait mieux parler de composition littéraire pour distinguer ce travail avec la langue, le langage humain mais aussi l'organe qui est dans la bouche, du travail de la main qui est celui de l'inscription. Un écrivain peut écrire sans inscrire, par exemple en dictant. D'ailleurs, la lecture de tout texte écrit, même silencieuse, le fait entendre, rendant la langue à son oralité première. On sait qu'il y a des langues sans écriture et des littératures de tradition orale. Le lecteur s'écoute déchiffrer les signes graphiques de l'écriture de la même façon qu'un musicien qui lit une partition entend la musique dans sa tête, que la composition soit la sienne ou celle d'un autre. La partition, une partition comme un livre, n'est pas destinée à être regardée ni exposée, à moins d'être considérée pour l'aspect esthétique des signes de la notation musicale, aussi indépendant de la vraie nature de la musique que l'écriture est indépendante de la véritable nature de la langue, c'est-à-dire de la littérature. Exposer un écrivain pourrait donc consister, du moins en partie, à l'illustrer, à le citer, à le transposer, à l'adapter, à lui rendre hommage. J'ai ainsi participé, ici même au Centre Pompidou, aux expositions consacrées à Roland Barthes et à Samuel Beckett, organisées de nul et nôtre par Marianne Alphand et Nathalie Léger. Pour l'exposition Roland Barthes, je me souviens m'être attaché à évoquer la chambre claire en soumettant une douzaine de photographies reproduites dans le livre au regard de la vidéo qui reconstituait les fameux allers-retours de l'œil entre le studium et le punctum. Pour l'exposition Beckett, j'avais réalisé une installation où des images vidéo inspirées par le texte de Commencer, détritus, déchets, flaques de boue, frappaient un enregistrement de ce livre ouvert où les caractères imprimés ajourés laissaient passer les images comme un filtre. On voit bien qu'il s'agissait dans l'un et l'autre cas de citations, d'hommages, de transpositions. Il est significatif que pour ces expositions, des artistes visuels, je n'étais pas le seul évidemment, étaient invités à produire des œuvres qui, elles, étaient faites pour l'exposition. Dans le cas de l'exposition consacrée à Claude Simon par la BPI, c'est-à-dire dans le cadre d'une bibliothèque et non pas d'un musée d'art contemporain, je n'ai pas été invité en tant qu'artiste à une intervention ponctuelle. Il n'y a d'ailleurs eu aucune invitation de ce genre, mais en tant que, entre guillemets, directeur artistique, pour une conception d'ensemble. On attendait de moi, il me semble, une proposition de réponse possible parmi d'autres à cette question, comment exposer un écrivain sans exposer des œuvres inspirées par un écrivain. Dès lors, je n'avais pas à réagir en artiste et je me suis dit, lorsqu'il s'agit de présenter un écrivain, on pense plutôt à écrire un livre ou à faire un film. Que peut apporter le dispositif de l'exposition ? Dans le domaine du cinéma documentaire, j'avais l'expérience d'avoir réalisé un film de 2 heures sur Pierre Klossowski, à la fois écrivain et artiste, où j'évoquais à la fois l'œuvre et la vie, étroitement entremêlées l'une à l'autre, d'une façon singulière, comme on sait, puisque le modèle du personnage central de Robert était Denise, l'épouse de Pierre Klossowski. Pour tenter de répondre à l'invitation qui m'était faite, mes premières réactions ont été les suivantes. Premièrement, j'ai considéré que le public est toujours très curieux du « comment ça se fait ?» Comment on fait un film ? Comment on sculpte le marbre ? Comment on prend une photographie d'un reportage de guerre ? Comment on écrit un roman ? C'est-à-dire aussi comment on devient cinéaste, sculpteur, photographe, reporter ou écrivain ? Comment ça commence ? Et finalement, comment ça se construit ? Comment ça se constitue ? Jusqu'à ce qu'une œuvre soit présentable, acceptable, diffusable. De ce point de vue, je pouvais considérer mon expérience personnelle de l'écriture, le dispositif de travail, les circonstances, les lieux, le rythme, la temporalité. Et puis, comment se créent les relations avec les éditeurs ? Quelle est la réception critique ? Comment on découvre le milieu littéraire ? Comment on rencontre d'autres écrivains ? Deuxièmement, j'ai tout de suite pensé que pour exposer un écrivain, le cinéma et les documents audiovisuels pouvaient jouer un rôle, à condition de concevoir une mise en espace pertinente, faute de pouvoir élaborer un montage linéaire, comme c'est le cas d'un film de cinéma. En effet, le mode de perception proposé au public d'une exposition est différent de celui de la salle obscure. Au lieu d'être assigné à place fixe pendant une durée déterminée face à l'écran d'une projection unique, ce qui est la situation du spectateur de cinéma, le visiteur est invité à circuler, libre de son parcours, du temps qu'il accorde à chaque élément exposé, proposé à son attention. Il doit donc faire son propre montage. Au cinéma, il n'y a qu'une seule surface d'image à regarder, un seul écran. Le montage, la durée ont été décidés par le cinéaste. La seule liberté du spectateur est de quitter la séance comme bon lui semble avant la fin. Notons qu'aujourd'hui, face au programme audiovisuel, la multiplicité des chaînes de télévision crée chez le spectateur l'illusion de composer lui-même son programme par la liberté de zapper. Une interactivité négative et trompeuse qui transforme tout propos audiovisuel en une sorte de jeu vidéo. Dans une exposition, le regard est soumis simultanément à des sollicitations multiples disposées dans l'espace de sa vision, mais il ne peut pas sauter brusquement d'un objet exposé à un autre. Un continuum s'établit obligatoirement. Troisièmement, un grand écrivain, tout comme d'autres types de personnalités marquantes, héros d'une révolution, champion sportif, pop star, célèbre acteur ou actrice de cinéma, crée à son sujet et autour de ce qu'il a fait une mythologie qui suscite le fétichisme des admirateurs. Dans sa capacité à montrer non pas des reproductions comme dans un livre ou dans un film, mais des objets authentiques ayant appartenu à l'auteur, qui les a touchés, qui a vécu avec eux, et même qui les a produits, tels que manuscrits, lettres, plans de travail, carnets de notes, journaux intimes, croquis, l'exposition permet de satisfaire ce désir du visiteur d'accéder à une proximité directe, à une forme d'intimité avec l'auteur. Encore faut-il savoir offrir et consommer ce plaisir avec modération. Avec ces trois constatations très simples, était acquise pour moi la nature de ma proposition, à la fois à destination des éminents spécialistes de l'œuvre de Claude Simon, qui allait fournir tout le savoir et toute la teneur intellectuelle du propos, et à destination des organisateurs, maîtres d'œuvre du projet, les responsables de la BPI. Dès la première réunion, j'ai fait savoir que je ne pouvais prétendre être un grand connaisseur de l'œuvre de Claude Simon, dont j'ai été en quelque sorte un lecteur ordinaire, avec même certaines lacunes. Contrairement à d'autres auteurs de la même génération, comme Alain Robbe-Grillet ou Marguerite Duras, que j'ai beaucoup fréquenté, que Julien Gracq, dont j'ai été l'élève au lycée Claude Bernard à Paris, que Roland Barthes, dont j'ai suivi le séminaire à l'école pratique des études, ou que Pierre Klossowski, déjà cité, dont j'ai été l'intime pendant quelques 25 ans, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Claude Simon. Aujourd'hui, je le regrette. Et je comprends que mes relations avec Robbe-Grillet ou Duras ont eu lieu dans le champ du cinéma, puisqu'ils ont été des écrivains cinéastes dont les romans étaient d'ailleurs parfois écrits dans le style des scénarios. Claude Simon n'a pas fait de film. Ses romans n'ont pas été adaptés au cinéma, à une exception près, plutôt expérimentale. Et son écriture, pourtant très imagée jusqu'à être visionnaire, éloigne sa littérature de tout facile passage à l'image. C'est bien la langue qui fait image, et chez Claude Simon, la langue est irréductible aux images. J'ai bien vite compris que mes insuffisances seraient parfaitement compensées et corrigées par l'excellence de la direction scientifique et par les conseillers de l'exposition. J'ai tout de suite appris également qu'un accès privilégié nous serait offert aux sources les plus riches de documentation, la bibliothèque Doucet, qui conserve toutes les archives de Claude Simon et les manuscrits de ses livres, ainsi qu'au témoignage le plus précieux, celui de Réa, la veuve de l'auteur, qui fut aussi sa collaboratrice dans la mise au propre dactylographique des textes en vue de leur passage chez l'éditeur. Ma proposition a été simple, mais il me semble qu'elle fut décisive dans la mesure où elle fut acceptée, je crois sans réserve. Il s'agissait d'aborder l'œuvre de Claude Simon en suivant les différentes étapes du processus de création puis de diffusion. D'un point de vue spatial, c'est-à-dire narratif, quand il s'agit d'une exposition, j'ai proposé un plan en plusieurs cercles. Le premier, le plus restreint, le plus privé, sorte de noyau dur de l'extrême intime, la table de l'écrivain, ce qu'il voyait de sa fenêtre, sa lampe, son cendrier, sa chaise, ses instruments d'écriture, son mode de notation, de planification de l'œuvre, ses sources, sa documentation. Sans doute me suis-je rappelé pour ce point des premiers cours de Roland Barthes au Collège de France, lorsque dans l'état d'esprit d'avoir atteint le milieu de sa vie, pour devenir un écrivain après avoir été un sémiologue et un sociologue, il se plaçait dans la perspective de préparer un roman, de devenir écrivain, peut-être avec Proust comme modèle. S'interrogeant tout d'abord sur les divers moyens techniques et matériels de la notation, carnet, magnétophone, photographie instantanée comme les Polaroids, et sur certaines autres formes brèves de consignation d'une idée, d'un sentiment, d'une impression, comme les haïkus de la pensée, de la poésie japonaise. Après cette étape initiale du travail de l'écrivain dans le calme et la solitude, en prise directe avec ses sources d'inspiration, sa mémoire, son imagination, son projet littéraire, j'ai proposé l'élargissement du cercle à l'intimité proche, celle du couple, formée avec la principale complice, l'épouse, pour le passage de l'écriture manuelle à la dactylographie, du manuscrit au tapuscrit. Rendant visite à Réa Simon, dans l'appartement de la Place Monge, conduit là par Patrick Longuet, j'ai découvert avec émotion la machine à écrire Erika, un des derniers modèles fabriqués par une marque de l'enseigne Allemagne de l'Est qui m'a été si familière. Le cercle suivant devait être celui du passage décisif du tapuscrit dans la version corrigée et considérée comme définitive par l'auteur au livre imprimé, édité et dès lors perçu dans une certaine appartenance, d'une part à une école, à un mouvement littéraire, le nouveau roman, d'autre part et surtout à une maison d'édition, Minuit. On connaît la célèbre photo de groupe d'écrivains autour de Jérôme Lindon, leur éditeur. Le livre publié, l'objet disponible en librairie, conduit directement au cercle suivant qui est celui des lecteurs. Étroitement mêlé à cette réception par le public est l'accueil critique qui contribue à l'image d'un auteur et de son œuvre, à sa réputation. Dans le cas de Claude Simon, il y a ce paradoxe d'une certaine confidentialité de l'œuvre, réputée difficile mais pourtant traduite dans de nombreuses langues et couronnée par la récompense suprême du prix Nobel. Enfin, le dernier cercle est celui du moment où l'œuvre étant accomplie, achevée et où son importance étant reconnue, elle donne lieu aux travaux et aux recherches de ceux qui, avec le recul, vont s'intéresser à elle, l'examiner, l'analyser, la comparer à d'autres, en relever les thèmes principaux, les obsessions singulières et récurrentes, la situer dans l'histoire de la littérature. La destinée des grandes œuvres n'est-elle pas d'être tôt ou tard étudiée dans les universités ? Tel a donc été le synopsis de ma proposition artistique qui prévoyait, outre les documents sur papier, manuscrits, dessins, photographies, éditions Princeps, le recours aux images animées et sonores. Archives cinématographiques, où l'on peut voir et entendre Claude Simon, mais aussi divers films réalisés pour la circonstance. Une interview de Réa Simon, une série de lectures filmées avec des lecteurs de toutes sortes, dans toutes sortes de situations, pour montrer que les romans de Claude Simon ne se lisent pas seulement en bibliothèque universitaire, mais à la terrasse d'un café, dans un jardin public ou au bord de la mer, pas seulement en France, mais par exemple aussi au Québec, avec l'accent du français de là-bas. Et on a aussi tourné des vidéos donnant la parole aux principaux spécialistes pour que chacun traite un aspect de l'œuvre de son choix. Il me semble que j'ai dit l'essentiel, mais pendant un instant de plus, je pourrais revenir à ma réflexion du début et la différence entre exposer un écrivain et exposer un peintre. Avec Claude Simon, nous avons failli avoir à exposer des tableaux. On sait qu'il commença par la peinture, mais au dire même de Réa, son œuvre d'artiste était loin de valoir son œuvre d'écrivain et l'abandon de la peinture fut, selon elle, une décision salutaire. Par contre, on retrouve l'intérêt de Claude Simon pour la peinture, d'une part dans son regard sur certaines œuvres qu'il cite et qu'il décrit dans ses fictions littéraires, d'autre part dans ses relations d'amitié avec quelques artistes notoires comme Dubuffet ou Miro. Il eût donc été possible, sinon d'exposer Claude Simon peintre, du moins de montrer les peintres de Claude Simon. Notre proposition d'organiser un parcours Claude Simon à travers les collections du Musée national d'art moderne, dans ce même bâtiment, n'a pu aboutir. Elle eût été légitime, pertinente et simple à réaliser. Elle aurait eu l'avantage aussi de montrer le Centre Pompidou comme un organisme où différentes institutions dialoguent et collaborent, comme l'avait souhaité son initiateur. Je parle de Georges Pompidou, évidemment. Pour évoquer cette relation de Claude Simon à l'art et aux artistes, nous avons réalisé un film où des peintures de différentes époques sont montrées, accompagnées d'une citation. Mais une autre trace du goût et du talent de Claude Simon pour le dessin et la couleur se retrouve dans ses manuscrits et par exemple dans le plan élaboré après coup pour la route des Flandres. Avec l'excellent infographiste Yann Belay du service audiovisuel de ce même centre Pompidou, nous avons essayé de filmer ce document exceptionnel conservé à la bibliothèque Doucet comme une œuvre où l'écriture devient en effet une image, le résultat d'un travail de l'œil et de la main qui, du même trait, passe des mots au dessin. Quant au code couleur utilisé par Claude Simon pour formaliser la typologie des personnages, des situations et des lieux, il peut être considéré comme une œuvre d'art abstrait ou peut-être même comme une partition dont il resterait à inventer l'interface pour la déchiffrer comme œuvre musicale. Le Musée national d'art moderne s'est rattrapé, je dirais entre guillemets, grâce à son conservateur pour la photographie, Clément Chéroux, qui, en complément à l'exposition de la BPI, a accepté la proposition de présenter un accrochage d'une trentaine de photographies de Claude Simon, des tirages d'époque offerts au musée par Réa. Claude Simon, photographe, peut en effet donner lieu à une exposition au sens traditionnel du terme. Il a fallu l'importance et l'ambition exceptionnelle de l'entreprise littéraire pour que l'œuvre photographique de Claude Simon n'ait pas été reconnue comme digne de celle des grands maîtres de la photographie dite humaniste. Si chacune de ces images porte la signature d'un vrai regard de photographe, avec une grande maîtrise de ce langage, peut-être Claude Simon ne s'est-il pas consacré à la photographie avec la même conviction de sa légitimité que ses confrères Alain Robrier et Marguerite Duras se sont consacrés simultanément au cinéma et à la littérature. J'ai l'impression que je connaissais bien mal Claude Simon avant d'avoir travaillé à cette exposition en compagnie des véritables experts de son œuvre. Je peux maintenant, grâce à eux, grâce à l'opportunité qui m'a été offerte par la BPI de jouer ce rôle, avoir l'impression de l'avoir croisé quelquefois. Merci.
Je ne sais pas si nous avons le temps pour une ou deux questions, 5-10 minutes avant d'enchaîner sur la table ronde qui nous attend, qui sera consacrée à un écrivain dans l'histoire et présentée par Jean Kempfer. Donc si quelques questions brûlent vos lèvres, il est temps de les poser d'urgence. Oui, David Zemmour.
Oui, merci à tous les trois. C'est une question que je voulais poser à Alain Fleischer. Je voulais savoir si et dans quelle mesure votre expérience de praticien de l'écriture aussi avait joué un rôle dans votre façon de penser ou de concevoir l'exposition.
J'ai essayé de mettre de côté cette expérience, mais par contre... Ce que j'ai tout de suite senti, c'est que chaque écrivain a son dispositif d'écriture, que chacun a ses habitudes, sa méthode, son rythme. Donc ça, je connaissais les miens. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'était donc le dispositif d'écriture de Claude Simon. on se rend compte que malgré les différences, c'est les similitudes qui l'emportent. Donc ça m'a beaucoup touché. Par exemple, qu'il commence par un manuscrit, qu'ensuite ça devienne un premier tapuscrit de sa propre frappe, puis une mise au propre par Réa. Tout ça, ça m'a rappelé mes propres méthodes, sauf que moi, j'ai abandonné la machine à écrire, non pas pour l'ordinateur, comme beaucoup d'écrivains, mais pour la dictée. Voilà. Moi, je dicte mes textes à ma compagne qui les saisit. Voilà, donc il est vrai que de ce point de vue-là, j'ai pu me servir de mon expérience, mais je pense que voilà, l'expérience, comment dire, pour la suite, c'est très banal, effectivement. Après, il y a le moment où on contacte un éditeur, comment ça se passe avec l'éditeur, comment c'est accueilli par la critique. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je ne connaissais pas du tout le milieu littéraire. J'en connaissais d'autres, je connaissais le cinéma, les arts plastiques. J'ai découvert le milieu de la littérature, comment ça se passe. C'est très différent des autres milieux. Ça n'a rien à voir. Les écrivains sont spéciaux. Ils ne ressemblent pas aux cinéastes. Il y a des personnages entre deux, comme ceux que j'ai évoqués, Robry ou Duras. Mais Robry et Duras étaient quand même des écrivains. Ils n'étaient pas vraiment des cinéastes, à mon avis. Voilà, donc ça m'a un peu servi, mais non, j'ai essayé d'en faire abstraction. Mais ce que j'ai découvert, c'est que j'aurais vraiment aimé le connaître, Claude Simon. Je suis totalement passé à côté de lui. Non pas de son œuvre que j'avais lue, mais comme je dis, comme tout le monde, j'avais lu Claude Simon, voilà, en laissant passer parfois un livre ou deux. Mais je me rends compte que j'aurais beaucoup aimé ce personnage. J'aimais sa discrétion, son refus de donner des leçons, notamment sur le thème de l'engagement politique. Voilà, la vie privée qu'il a menée, tout ça m'a beaucoup touché. Donc je me suis senti proche de lui un peu trop tard.
Bien, ben je crois que nous allons passer directement à la table ronde suivante. Et donc, j'invite les intervenants de cette table ronde qui s'intitule « Un écrivain dans l'histoire » et qui sera présenté par Jean Kempfer, qui vient de l'Université de Lausanne et qui est justement quelqu'un qui a beaucoup réfléchi aux relations de la littérature et de l'histoire. Et je laisse le soin à Jean Kempfer de présenter ses propres invités pour cette table. Et je vous remercie, à tout à l'heure.